Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce mercredi 17 novembre 2021. J'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Les présidents iraniens et russes ont discuté de leur position commune envers les questions régionales et internationales. Israël a mené une attaque contre le sud de la Syrie avec deux missiles visant une maison vide et ne faisant aucune victime. Et le président du Conseil souverain de transition du Soudan a réaffirmé que les militaires n'avaient pas l'intention de rester au pouvoir. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Les présidents iraniens et russes ont discuté au téléphone mardi 16 novembre de leur position commune envers les questions régionales et internationales et souligné la nécessité de finaliser un document global sur la coopération à long terme. Le président iranien Ebrahim Raisi a souligné la nécessité d'une coopération conjointe sur les questions régionales. Nous considérons que la présence continue des forces étrangères en Syrie va à l'encontre de la volonté du peuple et du gouvernement syrien et c'est ce qui menace la stabilité et la sécurité de ce pays. Évoquant les développements en Afghanistan, M. Raisi a déclaré « La présence de Daesh en Afghanistan est inquiétante et nous devons être conscients des dangers de cette conspiration. » Téhéran plaide pour la mise en place d'un gouvernement afghan incluant tous les groupes ethniques et politiques. La Russie a quant à elle plaidé pour la défense des droits nucléaires de la République islamique d'Iran et la levée de toutes les sanctions. La République islamique d'Iran prend très au sérieux les négociations sur le nucléaire en faveur des droits de notre nation et la levée des sanctions, a réitéré M. Raisi. Le président iranien a aussi salué l'initiative russe pour la stabilité et le calme dans la région du Caucase. Les deux parties ont également souligné qu'un changement dans la géopolitique et des frontières des pays de la région était inacceptable. Moscou soutient les propositions de Téhéran dans le domaine de la rédaction d'un nouveau document sur la coopération à long terme entre les deux pays et nous sommes déterminés à finaliser le projet, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors de cet entretien téléphonique. En ce qui concerne la coopération régionale, en particulier en Syrie, Poutine a indiqué à l'appui de nos efforts conjoints, nous avons pu sauvegarder l'indépendance de la Syrie et annihiler le terrorisme dans ce pays moyen-oriental. Nous devons bien entendu poursuivre notre étroite coopération, notamment dans diverses parties de la région. Exprimant son inquiétude face à la situation au Haut-Karabakh, Poutine a déclaré « Pour augmenter le niveau de confiance et de coopération dans la région, nous cherchons à créer un mécanisme consultatif 3+3 et nous espérons que la République islamique d'Iran le soutiendra. » Moscou attache une grande importance à la promotion des relations économiques et à la finalisation des programmes d'investissement avec l'Iran. Le ministre iranien du pétrole a félicité la désignation d'Algérie comme président du Forum des pays exportateurs du gaz, GECF. Dans son message adressé aux représentants d'Algérie, au GECF, le ministre iranien du pétrole indique « L'Algérie et l'Iran continueront à travailler en étroite collaboration dans le cadre du GECF et l'OPEP. J'ai eu des entretiens constructifs avec mon homologue algérien à ce sujet et j'attends de bons résultats de cette coopération. » Le Forum des pays exportateurs du gaz, GECF, est une organisation gouvernementale internationale qui fournit le cadre pour l'échange d'expériences et d'informations entre les pays membres. Il est un rassemblement des principaux pays exportateurs de gaz au monde et a été créé en tant qu'organisation gouvernementale internationale dans le but d'accroître le niveau de coordination et renforcer la collaboration entre les pays membres. Le GECF cherche également à mettre en place un mécanisme pour un dialogue plus significatif entre les producteurs de gaz et les consommateurs de gaz dans un souci de stabilité, de sécurité, de l'offre et de la demande sur les marchés mondiaux du gaz. Conformément au statut du GECF, l'organisation vise à soutenir les droits souverains de ses membres sur leurs ressources en gaz naturel et leur capacité à développer, préserver et utiliser ces ressources au profit de leur peuple à travers l'échange d'expériences, de points de vue, l'information et la coordination en matière gazière. Les pays membres du forum sont l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité et Tobago et le Venezuela. L'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, la Norvège, le Pérou et les Émirats arabes unis ont le statut de membre observateur. Avec le nombre actuel de membres, le GECF occupe une position forte sur les marchés mondiaux de l'énergie et parmi les organisations internationales de l'énergie. Ensemble, la coalition représente 70% des réserves prouvées de gaz, 44% de sa production commercialisée, 52% des gazoducs et 51% des exportations de GNL à travers le monde. Les médias syriens ont déclaré qu'Israël avait mené une attaque contre le sud du pays tôt mercredi 17 novembre avec deux missiles visant une maison vide et ne faisant aucune victime. Les missiles provenaient du plateau du Golan occupé par Israël et visaient le bâtiment au sud de la capitale Damas, indiquait l'agence presse officielle Sana. La source indique que les systèmes de défense de la Syrie avaient intercepté l'un des missiles entrant. L'attaque n'a causé aucune perte, indiquait l'agence. Les sources ont indiqué que vers 0h45 aujourd'hui, l'ennemi israélien a mené une agression avec deux missiles en direction du Golan syrien occupé, visant un bâtiment vide au sud de Damas et l'un des missiles aussi a été abattu et aucun dégât ne s'est produit. Israël effectue des raids sur la Syrie principalement pendant la nuit. Le raid de mercredi a eu lieu peu après minuit, a indiqué Sana. Selon les informations fournies par l'agence presse Sana, deux missiles ont été tirés, dont l'un a été intercepté avec succès par les systèmes de défense aérienne syriens, tandis que le second a touché une cible inconnue dans la banlieue de la capitale syrienne. Contrairement aux attaques précédentes, la frappe contre Damas ce mercredi soir a été menée par l'armée israélienne sans l'intervention d'avions militaires. Des missiles ont été tirés depuis les hauteurs du Golan. Ce cas raccourcit le temps de réponse et réduit l'efficacité d'interception des missiles ennemis. À la suite de l'impact du deuxième missile israélien, des blessures et des pertes ont été évitées, mais un bâtiment non résidentiel a été endommagé. En Irak, les opérations militaires des Hashd al-Shaabi ont couvert les montagnes de Hamarin, où s'étaient retranchés les terroristes Daesh, opérant dans la province d'Iyala. Nous avons lancé cette opération après avoir reçu des renseignements sur les agissements de l'ennemi et des cellules dormantes de Daesh, ont annoncé les Hashd al-Shaabi dans un communiqué. À noter que les opérations des Hashd profitaient d'une couverture aérienne des avions de combat irakiens. Une superficie de 150 km a été sécurisée et 14 fiefs de Daesh où se trouvaient des équipements logistiques et militaires et des engins explosifs ainsi qu'un tunnel ont été découverts, indique le communiqué. Lors de l'opération de Diyala, les 1er, 4e, 23e et 24e brigades des Hashd al-Shaabi ainsi que les forces d'une brigade spéciale pour Diyala ont lancé des opérations militaires dans depuis 5 directions afin de nettoyer les régions du nord de la province de la présence de Daesh. Les unités de renseignement, les unités balistiques, les unités d'ingénierie et les unités de déminage des Hashd ont été impliquées dans ces opérations. En plus, l'unité balistique de Hasht a frappé les fiefs des terroristes retranchés dans les montagnes de Hamrin. La libération des montagnes de Hamrin revêtait une importance toute particulière puisque les terroristes de Daesh se déplaçaient facilement à travers les monts et préparaient des attentats depuis leur fief. C'est depuis les montagnes de Hamrin que Daesh a récemment attaqué le village d'Al-Rashat dans le district d'Al-Merdadiya, tuant et blessant des dizaines de personnes. Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan et commandant général des forces armées soudanaises, a réaffirmé mardi 16 novembre que les militaires n'avaient pas l'intention de rester au pouvoir. Le général Burhan a souligné la volonté et l'ouverture de l'armée à mener un dialogue inconditionnel qui mène à la stabilité et au développement du pays. Il a en outre insisté sur le respect du document constitutionnel et la conduite d'un dialogue global avec toutes les forces politiques pour compléter la structure de l'autorité de transition et réussir la transition démocratique dans le pays jusqu'à la tenue d'élections libres et équitables en juillet 2023. Le général Burhan a en outre promis de libérer les détenus politiques à moins qu'une accusation pénale ne soit prouvée contre quelconque d'entre eux, affirmant que les mesures pour libérer les détenus politiques ont déjà commencé et que tout détenu non reconnu coupable d'une infraction pénale sera libéré. La force Barkhane a transféré à l'armée malienne la base de Tessalit dans le nord du Mali dans le cadre de la restructuration de ses opérations au Sahel, a annoncé mardi 16 novembre l'état-major français. Après celle de Kidal, l'emprise occupée par la force Barkhane à Tessalit a été transférée le 13 novembre aux forces armées maliennes FAMA. Les derniers soldats français ont quitté le site le 15 novembre, indique un communiqué de l'état-major français. Ce transfert a été progressif, maîtrisé et étroitement coordonné avec les FAMA et avec la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, dont un contingent de plusieurs centaines de militaires est déployé en permanence à Tessalit, selon le document. Quelques 160 000 militaires américains en service ont des difficultés à nourrir leur famille, a rapporté l'agence presse Associated Press, citant une estimation de Feeding America. Cette organisation à but non lucratif, dirigeant un réseau de banques alimentaires, a effectué une enquête à l'échelle nationale qui a révélé que le problème d'insécurité alimentaire a lentement gagné la société américaine et les militaires n'ont pas été épargnés. L'année dernière, Feeding America avait également signalé que 29% des militaires de grade inférieur étaient confrontés à l'insécurité alimentaire. Le problème existe depuis des années aux États-Unis et des millions d'Américains de différents milieux y font face, ce qui devrait être la source d'un profond embarras, a déploré Vince Hall, chargé des relations avec le gouvernement au sein de l'organisation. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Super attaque anti-satellite éclair de la Russie qui focalise l'intérêt iranien. Ce missile anti-satellite impressionnant que la Russie a lancé en prenant de court les Américains, rien que pour leur faire comprendre qu'en Ukraine, ils risquent d'être plus largement surpris, les Iraniens y ont assisté l'air bien intéressé. Surtout que le premier satellite militaire iranien, Nouran, avec son lance-roquette Salman, achève sa mission cette année et on s'attend à des surprises iraniennes dans ce domaine. Le lundi 15 novembre, les États-Unis ont accusé la Russie d'avoir mené un tir de missile anti-satellite dangereux et irresponsable, dans une démonstration de force ayant eu pour conséquence directe de menacer la sécurité des astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Au lendemain de ces accusations, la Russie a reconnu avoir effectué ce tir d'essai contre l'un de ses vieux satellites en orbite, tout en soutenant que cela n'avait posé aucun risque pour l'ISS. Le 15 novembre, le ministère russe de la Défense a mené avec succès un test à l'issue duquel l'engin spatial Slina D, en orbite depuis 1982 et inactif, a été détruit, a confirmé l'armée russe dans un communiqué. Ce lundi 15 novembre, l'équipage à bord de la Station spatiale internationale a dû rapidement enfiler sa combinaison spatiale et sauter dans son vaisseau spatial au cas où la station serait touchée par des débris, selon l'agence spatiale russe Roscosmos. Le système anti-satellite conçu par la Russie a rendu difficile l'exploitation de l'espace par les États-Unis et leurs alliés, a porté atteinte à la stabilité stratégique et constitue une menace considérable, a annoncé le commandement spatial des États-Unis. La nouvelle tombe alors que des médias iraniens ont récemment confirmé que le pays allait acheter une vaste gamme d'équipements militaires à la Russie, parmi lesquels des avions de chasse Sukhoi 35 et 36. Le missile anti-satellite russe pourrait-il donc intéresser les Iraniens? Toujours est-il que l'Iran a mis en orbite en avril 2020 son premier satellite multifonctionnel, Nur 1, qui est considéré aussi comme le premier satellite militaire du pays. Et l'on sait également que le moteur Salman utilisé dans cette opération de mise en orbite peut être utilisé dans les opérations spatiales aux missiles anti-satellite. Rappelons en passant que le corps des gardiens de la révolution islamique a plus de 9 ans d'expérience dans le domaine de l'aérospatial. La fabrication du moteur spatial baptisé Salman, doté d'une tuyère mobile et d'un corps en composite par le corps des gardiens de la révolution islamique, est une étape importante avant la conception d'un missile anti-satellite. Pour faire changer la trajectoire des missiles, différentes méthodes s'emploient. Deux des plus employés sont les ailes aérodynamiques et la poussée vectorielle. La poussée vectorielle est une technologie utilisée en aéronautique. Elle consiste à orienter le jet du réacteur et améliore considérablement la manœuvrabilité d'un avion à réaction indépendamment de sa vitesse. Ce dispositif permettait en effet de réaliser des virages à fort angle d'attaque et de voler à très basse vitesse. Le principe de la poussée vectorielle est d'orienter le flux à la sortie du réacteur en utilisant par exemple une tuyère orientale. Le moteur spatial Salman peut changer de direction en raison de matériaux composites légers utilisés dans son corps. En conséquence, cette technologie de l'usage de la propulsion à propergole solide permet à l'engin de se déplacer bien au-delà de l'atmosphère terrestre. Le recours à la technologie de propulsion à tuyère mobile permet de fabriquer des missiles défensifs pour engager des cibles ennemies en dehors de l'atmosphère terrestre. En général, ces cibles peuvent comprendre des missiles balistiques, des projectiles hypersoniques et même des satellites. Certains pays ayant accédé à la technologie balistique ont franchi d'importants pas dans ce domaine. La Chine et récemment l'Inde font partie des rares pays capables de faire face à des satellites ennemis. Regard au niveau de la science et de la technologie des missiles en Iran et aux menaces qui pèsent sur le pays, on pourrait conclure que celui-ci a un potentiel considérable pour le développement d'un bouclier de défense anti-missiles balistiques et de missiles anti-satellites. Dans un prochain avenir, davantage de missiles de type sol-sol et sol-air seront développés, conduisant à une grande avancée de la capacité défensive et offensive de l'Iran.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Dans le débat d'aujourd'hui, il sera question de l'activité navale de l'Iran dans le golfe Persique. En effet, l'Iran a démontré en assurant la sécurité énergétique mondiale en neutralisant des opérations de piratage des États-Unis dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Alors, les États-Unis, jusqu'ici, se croyaient tout permis. alors que l'Iran donc a prouvé encore une fois qu'il est capable d'assurer donc ses sécurités dans la région. Et nous parlerons bien sûr dans ce débat des failles fondamentales et de manque d'intelligence dans les opérations militaires des États-Unis, surtout récemment, ils ont démontré, dans le détroit d'Hormuz. Nous parlerons bien sûr de cette crise diplomatique entre les États-Unis et la France, où les États-Unis, donc maladroitement, a volé sous le nez de la France des contrats militaires importants, des sous-marins pour l'Australie. Des experts des questions internationales vont faire vivre le débat d'aujourd'hui, juste après ce reportage.
Un groupe de réflexion américain a écrit dans une récente analyse que l'Iran fait une démonstration de sa capacité à assurer la sécurité énergétique mondiale dans le golfe Persique et le détroit d'Hormuz. Dans une analyse récente, la puissance navale de l'Iran dans le golfe Persique et le détroit d'Hormuz, Middle East Institute a écrit que la fermeture pour plusieurs années du détroit ne nécessiterait que 300 mines et que la marine américaine serait totalement incapable de faire face à cette menace à court et à moyen terme. De toute évidence, la force navale du CGRI, en annulant la saisie par l'US Navy d'un pétrolier transportant du pétrole iranien en mer d'Oman, n'a pas seulement démontré la nullité stratégique et tactique de l'arrogance mondiale que l'on retrouve au stade terminal de la décrépitude et qui se croyait pourtant tout permis jusqu'à l'avènement de la révolution islamique. Cette opération rapide des forces navales du CGRI est une opération anti-piratage qui révèle, entre autres, des failles fondamentales, un manque d'intelligence et surtout l'empirisme des puissances déclinantes qui s'accrochent à des stratégies surannées. Cela intervient alors qu'en septembre dernier, l'annulation du contrat FSP par les Australiens, car séduit par une offre conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni, n'a pas tardé à tourner en crise diplomatique ouverte. Mais la réaction française face à cette trahison, à maintes reprises, était critiquée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À gauche, par exemple, le sénateur du Parti socialiste, Rachid Temal, s'est questionné sur les propos du président américain qui évoque une simple maladresse dans ce dossier. J'imagine si les États-Unis avaient été habiles alors. Tout cela ressemble bien à une deuxième humiliation, sans broncher, a dénoncé sur Twitter le parlementaire.
Alors voilà pour le reportage. Alors comme j'ai promis, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités. En commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour à votre plateau et à votre public.
C'est un plaisir de vous recevoir, Luc Michel. Un grand bonjour également à M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui nous joint depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe et bien sûr bonjour à Luc Michel.
Un débat prometteur, chers amis. Nous parlerons bien sûr de cette capacité navale de l'Iran pour assurer la sécurité énergétique mondiale dans la région du Golfe Persique. Alors, Luc Michel, bien sûr, il est caché pour personne que l'Iran est là pour assurer la sécurité, surtout la sécurité énergétique, en neutralisant, on a vu tout récemment, les opérations de piratage des États-Unis qui ont été neutralisées par l'Iran.
La puissance maritime de l'Iran, elle ne s'exprime pas seulement, d'ailleurs, dans le golfe Persique, puisque maintenant, la marine iranienne est présente dans l'océan Atlantique, dans la Manche, dans la Baltique. L'amiral commandant votre flotte a participé au 325e anniversaire de la marine russe à Saint-Pétersbourg. Et ensemble, les marines russes et iraniennes neutralisent les Occidentaux dans le golfe de Guinée, à l'entrée de la mer Rouge, mais également dans l'entrée de l'océan Indien. Il y a en particulier la signature entre l'Iran et Madagascar d'un accord naval qui ouvre à la marine de guerre iranienne tous les ports de Madagascar. Les Français, d'ailleurs, ont réagi maladroitement puisqu'ils avaient tenté il y a quelques mois un coup d'État et un assassinat du président malgache. C'est donc une série d'erreurs. Mais ce qui saisit actuellement toutes les puissances occidentales, c'est ce que les Romains appelaient l'hubris. C'est-à-dire l'excès d'orgueil de puissance qui fait que ces gens, maintenant, ou une politique militaire en particulier dans le domaine naval, qui est irréaliste, qui ne tient pas compte de l'évolution de l'organisation de la coopération de Shanghai en un bloc militaire et l'apparition d'une contre-temps, en particulier sur les mers.
Oui, merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Hugon depuis Paris. Alors, M. Hugon, nous parlons bien sûr de cette démonstration de force, des forces navales de l'Iran en neutralisant cette opération de piratage qui a été très maladroitement organisée.
Oui, alors vous savez, les États-Unis et comme beaucoup de pays européens qui interviennent dans la région accumulent maladresse sur maladresse. Et je pense que c'est une erreur fondamentale en politique étrangère de voir se créer un grand nombre d'injustices de la part des États-Unis vis-à-vis de pays comme l'Iran. Je pense que l'Iran devrait être un véritable allié de l'Union européenne. Allié aux États-Unis, ça va être bien sûr très difficile parce que les États-Unis n'ont pas du tout la lucidité de voir la réelle politique au niveau international. Alors que l'Iran a démontré un peu sa position de force, c'est une certitude, et ils ont eu raison de le faire. Je rappelle quand même qu'ils ont quand même une partie de leur côte sur le Golfe. Hein. Donc il est tout à fait légitime que l'Iran intervienne. Ce qui est nettement moins légitime, ce sont les nombreuses interventions occidentales et qui se permettent depuis maintenant plus d'un demi-siècle hein, d'intervenir et d'ingérer dans les affaires d'autrui. Je ne sais pas comment réagiraient les États-Unis si des pays comme l'Iran ingéraient dans leurs affaires et économiques. Et je pense qu'ils ne seraient pas vraiment ravis de voir une telle situation arriver un jour. Moi, je crois surtout que les États-Unis, comme l'Union européenne, sont des pays qui n'ont plus les moyens de leurs ambitions. Hein, ce sont des pays qui vivent encore sur des relents de colonialisme et se permettent de vouloir imposer leur dictat à un certain nombre de pays. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une politique qui est totalement dépassée. Et aujourd'hui, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, devraient émettre et prendre de grandes réserves vis-à-vis des pays comme l'Iran, puisqu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus du tout en position de force, puisque je rappelle quand même que les États-Unis sont un pays financier, tout comme l'Union européenne d'ailleurs. Donc on n'a plus les moyens de nos ambitions, et je pense qu'il faudrait mieux se tourner vers la diplomatie afin de trouver des accords avec des pays comme l'Iran, plutôt que de vouloir les affronter de face dans un duel qui ne sert à rien et qui est totalement stérile sur un plan international.
Luc Michel, apparemment les États-Unis ne sont pas prêts à se livrer au charme de la démocratie et au contraire, ils ont toujours accès à la force. Est-ce qu'il est temps que les États-Unis se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se permettre de tout faire dans la région, aller jusqu'à donc maladroitement opérer des opérations de piratage?
Écoutez, la piraterie, la lutte contre la piraterie, c'est le prétexte de l'ingérence des marines occidentales dans une zone qui va du golfe de Guinée jusqu'à l'entrée de l'océan Indien. Mais en réalité, les marines occidentales pratiquent elles-mêmes la piraterie, l'interception de navires, etc. C'est quelque chose qui n'est plus acceptable et qui correspond, comme l'a bien expliqué M. Hugon, à une vision dépassée des choses. Mais le problème des États-Unis, c'est que depuis le début du 19e siècle, il ne faut pas oublier que les États-Unis, ce sont les inventeurs avec l'Allemagne de la géopolitique. La géopolitique a été définie par des amiraux anglo-saxons et ils ont défini toute leur capacité mondiale autour d'une projection de la puissance et en particulier la projection de la puissance des flottes au niveau mondial. Dans l'hymne des marines américains, on parle des rivages de Tripoli et ça date du 19e siècle. Donc l'ambition américaine, elle n'était pas uniquement de dominer l'étranger proche, comme le disait la doctrine de Monroe quand ils ont éjecté les puissances européennes, mais dès le 19e siècle, les Américains voulaient être présents, notamment en Méditerranée. C'est une époque terminée, le temps des cas malheureux qu'il va pour ramener les Occidentaux à une vision réaliste des choses. Mais c'est un processus. Le problème, c'est que les géopoliticiens américains, au contraire, ils estiment actuellement que les États-Unis ont encore une quinzaine d'années dans lequel ils vont être position de force. Et certains sont tentés par ce que j'ai appelé un banco géopolitique, c'est-à-dire de tenter une opération de force pour garder la suprématie. C'est une voie suicidaire pour tout le bloc occidental, d'autant plus que le bloc occidental, s'il est une unité militaire, est parcouru de fractures qui sont les guerres économiques, comme vient encore de le révéler la querelle des sous-marins australiens.
Monsieur Hugo, alors nous avons entendu les propos de Monsieur Luc Michel. J'aimerais que vous développiez à présent davantage des failles fondamentales et de manque d'intelligence dans l'attitude des États-Unis.
Oh bien, je pense que le manque des réalités aux États-Unis et dans l'Union européenne est vraiment flagrant. Hein. Je pense qu'on vit aujourd'hui sur des contextes de politique étrangère qui sont complètement dépassés et qui s'accrochent encore à des concepts de politique étrangère qui ne sont plus du tout adaptés à la situation d'aujourd'hui. Donc les failles, elles existent, elles sont bel et bien là. Et je pense que c'est un véritable problème de réal politique, puisque aujourd'hui c'est la diplomatie qui devrait prendre le dessus sur la force, de façon à trouver des accords avec des pays comme la Russie, comme l'Iran, de façon à trouver des solutions qui soient pérennes dans l'avenir. Luc Michel le disait, et il a tout à fait raison, cette politique conduite, que ce soit par les Américains ou les Français, va nous amener à une situation critique. C'est une politique qui est condamnée à l'échec. Et d'ailleurs, on le voit déjà sur le terrain. Les États-Unis subissent des échecs depuis quelques années aujourd'hui, que ce soit en politique ou sur le plan militaire. On a bien vu le retrait américain, que ce soit d'Irak, en Afghanistan. On ne peut pas dire que leur intervention a été très, très brillante. Ce qu'ils ont fait, c'est amener le chaos dans une région qui était déjà très chaotique, et ce chaos se poursuit par la faute de leur intervention. Donc je pense qu'il y a vraiment un manque de réalisme dans leur façon d'aborder les problèmes internationaux. Il y a toujours ce relent d'orgueil que l'on trouve d'ailleurs aussi bien côté français que du côté américain, que du côté britannique. Mais ce côté orgueil, je trouve qu'il est totalement dépassé aujourd'hui, puisqu'en fait, nous avons quand même bientôt 8 milliards de personnes sur Terre, ce qui est un véritable problème, cette surpopulation. Cette population va engendrer des appauvrissements économiques et risque de créer des situations explosives dans certaines parties du monde. Et là encore, si on n'est pas capable déjà de gérer une situation comme avec l'Iran ou avec la Russie, qu'est-ce que ça va être le jour où on a un embrasement dans certains pays et un effondrement économique? Moi, je suis extrêmement pessimiste pour l'avenir, parce que je me dis que dans les 15 ans qui viennent, on va voir des bouleversements géostratégiques qui vont être absolument incroyables, dont on n'imagine pas encore les conséquences qu'elles auront pour les 15 ou 20 ans qui viennent.
Oui. Luc Michel, est-ce qu'on peut penser à un espoir pour l'avenir de la politique étrangère des États-Unis? Car cette fois-ci, ce sont des groupes et des institutions politiques qui ont admis donc concrètement de la capacité navale de l'Iran pour assurer la sécurité dans la région du Golfe Persique.
Donc, je ne crois pas à un retour du réalisme, parce qu'il y a une dimension supplémentaire, c'est la propagande. La propagande, c'est une dimension de la guerre moderne, notamment de la guerre médiatique. Mais lorsque vous croyez votre propre propagande, vous courez à la mort et au suicide. L'exemple typique, c'est le Troisième Reich en 1941, qui attaque l'Union soviétique en croyant la propagande allemande, qui décrit l'Union soviétique comme un État dégénéré aux mains d'un système chaotique, alors que l'Union soviétique, sur le niveau militaire et industriel, est supérieure à l'Allemagne, et que on l'ignore souvent, ce ne sont pas les Allemands qui ont inventé la Blitzkrieg en Pologne en 1939, c'est le général Joukov en Mongolie extérieure contre le Japon en 1938. C'est la même chose avec les États-Unis. Depuis le régime de Bush 2, ils croient à leur propre propagande. En 2002, il y a un livre qui sort, c'est le manifeste des néoconservateurs, c'est le chef de file de ceux-ci, Bill Kristol, il écrit un livre, Notre chemin commence à Bagdad. Dedans, ils expriment des opinions irréalistes, c'est-à-dire tout d'abord que le modèle occidentalo-américain, c'est le modèle universel, c'est vraiment la démocratie avec un grand « la », Et ils croient que les populations vont se soulever pour appliquer ce modèle américain, notamment en Irak et en Afghanistan. Ça conduit à deux catastrophes géopolitiques avec les États-Unis. Même s'ils ont tenté de s'en sortir par la géostratégie du chaos, c'est une politique qui débouche directement sur l'irréalité de la politique de Trump. Actuellement, nous avons des gens, Trump a mené une politique irréaliste, Macron se comporte encore comme s'il était un proconsul au temps du colonie du 19e siècle. Quand vous le voyez intervenir en Afrique, au sommet de Montpellier, ou au Liban lors de ses visites, c'est un proconsul occidental. Il a encore démontré l'irréalisme lorsqu'il a prétendu prendre le sommet de la réunion de la COP26 il y a quelques jours. Lorsque vous écoutez le discours de Macron, vous avez l'impression que vous êtes devant le chef du monde. Et en réalité, la France, c'est une petite puissance géopolitique mineure qui est sur le déclin. C'est comme cela dans tous les domaines. Erdogan fait la même erreur, c'est-à-dire que Erdogan croit qu'il est en train de reconstituer l'Empire ottoman. Ce sont des objectifs irréalistes. Donc je ne crois pas que le bloc occidental reviendra au réalisme. Et je pense que, puisque les géopoliticiens américains prévoient la Troisième Guerre mondiale, ils sont les seuls dans ce cas-là. Eux, ils en parlent ouvertement. Des gens comme George Friedman, qui est le chef de file de la géopolitique américaine, c'est l'ancien patron de Stratfor. Lui, il évoque la Troisième Guerre mondiale entre 2005 et 2070. Eh bien, cette Troisième Guerre mondiale, contrairement à ce qu'ils pensent, je suis persuadé, moi, qu'ils vont la perdre. D'autant plus que leurs adversaires, eux, sont des gens réalistes. Il y a notamment, puisque nous avons commencé à débattre de la marine, il y a justement ce plan de Vladimir Poutine pour reconstituer des flottes russes sur tous les océans, comme au temps de Brejnev et de l'amiral soviétique Gorchov. Il y a le plan de la marine iranienne qui, visiblement, maintenant a des objectifs de géopolitique, non pas mondial, mais qui dépasse les objectifs régionaux. Et enfin, il y a la marine chinoise aujourd'hui qui a quitté la géopolitique de l'étranger proche pour se projeter en Afrique, dans le golfe de Guinée, dans l'océan Atlantique. C'est tout cela qui n'est pas pris en compte par les Américains. Une politique réaliste, elle voudrait se concilier, se partager le monde en zones d'influence. Ça suppose que les États-Unis ne dominent plus l'Europe. L'avenir au 22e siècle, ce sont des occidentaux autocentrés, les États-Unis, mais ramenés comme une puissance régionale, et qui feront des accords géopolitiques entre eux bilatéraux. C'est l'avenir, c'est décrit tel quel depuis le début du 20e siècle par les géopoliticiens, et malheureusement, l'Amérique ne se dirige pas vers cet avenir.
Monsieur Egon, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Luc Michel quand il parle des pays irréalistes, des pays qui ont les pieds sur terre?
Ah oui, ben tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord avec Luc Michel. Il est vrai qu'on a en Europe ou aux États-Unis une vision totalement décalée des réalités de la politique internationale. Moi, je pense que le problème, c'est que tout ceci, même si ça ne conduit pas à un véritable conflit mondial, parce que je ne le vois pas arriver de cette façon, je pense malgré tout que le système financier que l'on a dans le monde occidental va s'effondrer dans les années qui viennent, et ça va faire des dégâts impressionnants au niveau de notre propre économie. Donc nous n'aurons plus la possibilité financièrement de pouvoir intervenir dans ces pays, et comme le disait très bien Luc Michel, on va avoir quelques zones d'influence, on deviendra un peu des puissances régionales, mais on n'aura plus cette ambition de pouvoir gérer le monde. D'abord, nous n'en sommes pas capables, je dirais sur un plan politique, mais on n'a pas les moyens financiers de notre politique. Donc, il est clair que dans les 20 ans qui viennent, je pense qu'on va voir de très grands bouleversements dans la stratégie de la gestion du monde. Et ce qui va être un point positif pour un grand nombre de pays, de pouvoir se développer et se développer à leur rythme, ce qui est une très bonne chose pour la paix et pour le bien-être des peuples, si je peux m'exprimer ainsi. Puisque si on laisse faire le monde occidental dans la gestion du monde, eh bien, ça va nous amener droit, non pas vers un conflit mondial, puisque je ne le pense pas, mais à des conflits locaux qui seraient extrêmement violents. Donc, c'est une très bonne chose que cette crise financière puisse arriver dans les années qui viennent, puisque ça va remettre, réajuster, rééquilibrer la situation financière mondiale, et ça va obliger les pays occidentaux à voir la réalité en face. Et il n'y a qu'une possibilité pour ça, c'est qu'il y ait cet effondrement financier.
Pour confirmer ce que vous dites un peu, Philippe Hugon, donc cette humiliation française avec cette rencontre de Biden avec Emmanuel Macron après avoir volé sous le nez de la France maladroitement, ils ont admis eux-mêmes, les États-Unis maladroitement, donc ce contrat important des sous-marins de l'Australie qu'ils ont annulé justement.
Oui, alors quand on dit maladroitement, je suis prêt à accepter le titre de maladroitement. Moi, je pense que c'était délibérément fait afin de torpiller les Français sur le dossier des sous-marins. Je pense que quand on a des dossiers qui pèsent des dizaines de milliards d'euros, eh bien, je pense qu'il n'y a plus du tout de sentiment dans les affaires. Et les Américains étaient très, très contents de récupérer un certain nombre de contrats. Ils ont déjà torpillé hein, dans l'histoire le Concorde, ils ont torpillé un certain nombre de contrats, hein, on a bien vu leur façon de faire. Moi je pense que c'est vraiment pas réaliste de penser qu'on puisse faire un front commun avec les États-Unis. Je pense que les États-Unis sont en position de survie actuellement, ce qui est le cas également de l'Europe d'ailleurs, mais je pense pas que c'était si maladroitement effectué, je pense qu'au contraire ça a été délibéré de la part des Américains de façon à ne pas passer à côté d'un contrat aussi juteux que les sous-marins. Alors après, bien sûr, vous avez lors des réunions comme ça entre chefs d'État, des gens qui vont s'excuser ou à demi-mot, si je puis dire. Mais par ailleurs, ça ne change pas grand-chose à la réalité de la situation. D'où l'intérêt qu'il faudrait aujourd'hui que l'Europe soit vraiment très forte, de façon à pouvoir faire un véritable front commun envers les États-Unis, puisqu'ils se permettent tout depuis une soixantaine d'années. Et ils n'ont plus cette position aujourd'hui, donc ils utilisent des moyens très, très malhonnêtes, parce que je pense que ça a été fait malhonnêtement, de façon à torpiller ce marché.
Tout à fait. Philippe Hugon, merci beaucoup depuis Paris d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Luc Michel, géopoliticien qui a gentiment accepté notre invitation depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Les nouvelles armes financières de l'Occident. L'idée selon laquelle la guerre économique s'imposerait aujourd'hui comme la forme moderne de la guerre est une idée qui est largement ancrée tant dans les opinions publiques des pays développés que chez nombre d'économistes, d'experts en stratégie et de responsables politiques. Les débats qui ont été menés au cours de ces dernières années autour de la question des délocalisations, du patriotisme économique, des différends commerciaux qui opposent certains pays, de l'agressivité voire de la concurrence déloyale exercée par les économies émergentes, des OPA hostiles, etc., sont là pour en témoigner. Cet engouement pour la guerre économique n'est pas dû au hasard. Il doit être directement mis en rapport avec la crise systématique qui affecte les économies capitalistes depuis le début des années 1970 et avec l'évolution des formes de la concurrence qui est devenue un enjeu central dans les changements institutionnels contemporains. Les mutations intervenues dans les pratiques concurrentielles au cours de ces dernières décennies se trouvent d'ailleurs au centre de nombreuses recherches qui ont été menées depuis les années 1990. La croissance molle, le chômage de masse, l'accentuation des déséquilibres internationaux et l'exacerbation de la concurrence à l'échelle mondiale représentent autant de réalités qui caractérisent la période contemporaine. Dans un environnement beaucoup plus turbulent et beaucoup plus incertain qu'à l'époque des Trente Glorieuses, 1945-1973, il est un fait que les rivalités économiques entre firmes et entre États se sont fortement intensifiées. Mais que doit-on entendre par guerre économique ? De nouvelles armes sont en train de s'ajouter à l'arsenal des politiques économiques et financières de l'Occident. Pour en comprendre la nature et la portée, il convient de partir de celles utilisées jusqu'à présent. Les sanctions, y compris la plus lourde, l'embargo, opérées surtout par États-Unis et Union européenne contre d'entiers États, sociétés et personnes. Il est fondamental de comprendre le critère avec lequel elles sont décidées. États-Unis et Union européenne décrètent par un jugement sans appel qu'un État ou autre sujet a commis une violation. Ils établissent la sanction ou l'embargo total et prétendent que les États tiers le respectent sous peine de rétorsion. En 1960, les États-Unis imposèrent l'embargo à Cuba, qui, s'étant libéré, avait violé leur droit à utiliser l'île comme leur possession. Le nouveau gouvernement nationalisa les propriétés des banques et multinationales états-uniennes qui contrôlaient l'économie cubaine. Aujourd'hui, 61 ans après, l'embargo continue, pendant que les compagnies américaines demandent des milliards de dollars de remboursement. En 2011, en préparation de la guerre USA-OTAN contre la Libye, les banques états-uniennes et européennes ont séquestré 150 milliards de dollars de fonds souverains investis à l'étranger par l'État libyen, dont ensuite la plus grande partie a disparu. Dans la grande rapine s'est distinguée Goldman Sachs, la plus puissante banque d'affaires états-unienne, dont Mario Draghi a été vice-président. En 2017, à la suite de nouvelles sanctions américaines contre le Venezuela, ont été gelés par les États-Unis des biens d'une valeur de 7 milliards de dollars et séquestrés 31 tonnes d'or déposées par l'État vénézuélien auprès de la Banque d'Angleterre et de l'allemande Deutsche Bank. C'est sur ce fond que se place la nouvelle et colossale opération financière lancée par Goldman Sachs, Deutsche Bank et les autres grandes banques états-uniennes et européennes. Apparemment, en miroir à l'opération des sanctions, celle-ci prévoit non pas des restrictions économiques ou séquestration de fonds pour punir les pays jugés coupables de violations, mais la concession de financement à des gouvernements et autres sujets vertueux qui se conforment à l'indice ESG. Environnement, société, gouvernance. Le but officiel de l'indice ESG est d'établir les normes pour éviter l'imminente catastrophe climatique annoncée par la conférence de Glasgow, pour défendre les droits humains piétinés par les régimes totalitaires, pour assurer le bon gouvernement sur le modèle des grandes démocraties occidentales. Fixe surtout ces normes le Département d'État US, le Forum économique mondial, la Fondation Rockefeller, la Banque mondiale, auxquelles se joignent avec un rôle subalterne quelques organisations onusiennes. La plus grande garantie pour les droits humains est représentée par le Département d'État américain, dont l'embargo sur l'Irak avec l'aval de l'ONU provoqua de 1990 à 2003 1,5 million de morts, dont 500 000 d'enfants. L'opération financière se concentre sur le changement climatique. La conférence ONU de Glasgow a annoncé le 3 novembre que la finance devient verte et résiliente. N'est ainsi la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, à laquelle ont adhéré depuis avril 450 banques et multinationales de 45 pays qui s'engagent à investir dans les trois prochaines décennies plus de 130 trillions de dollars de capital privé pour transformer l'économie jusqu'à zéro émission en 2050. Les capitaux sont recueillis à travers l'émission de Green Bond, obligations vertes et d'investissements effectués par des fonds communs et des fonds de pension en grande partie avec l'argent de petits épargnants qui risquent de se retrouver dans une énième bulle spéculative. Désormais, il n'est pas une banque, une multinationale, qui ne s'engage à réaliser les zéro émissions d'ici 2050 et à aider dans ce sens les pays pauvres, où plus de 2 milliards d'habitants utilisent encore le bois comme unique ou principal combustible. Solennellement engagé pour les zéro émissions se trouve même la compagnie pétrolifère anglo-hollandaise Royal Dutch Shell, qui, après avoir provoqué un désastre environnemental et sanitaire dans le delta du Niger, se refuse à y assainir les terres polluées. Ainsi, dans l'attente des émissions zéro, les habitants continuent à mourir à cause de l'eau polluée par les hydrocarbures de Shell.
Thank you.